Bonjour et bienvenue dans l'émission « Pourquoi pas des philosophes ?». Nous recevons aujourd'hui Didier Ottaviani, maître de conférences en philosophie médiévale à l'ENS de Lyon. Didier Ottaviani, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Outre l'enseignement de la philosophie, vous êtes spécialiste de théorie de la bande dessinée, vous êtes vous-même illustrateur et vous animez des ateliers de philosophie pour des personnes en souffrance psychique. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, comment avez-vous rencontré la philosophie ?
Bah finalement, comme un petit peu tout le monde, c'est-à-dire essentiellement en terminale, bien que c'était quelque chose que j'ai vraiment rencontré plutôt par la suite, puisque la terminale a été une première découverte qui m'a permis, bon évidemment, de faire une hippocagne, puisque alors j'étais, pour le dire, pour faire un petit peu ma bio rapidement, j'étais en terminale C, donc plutôt une filière à tendance scientifique qui m'intéressait peu. La philosophie donc était une découverte d'une autre dimension qui m'a incité à faire une hippocagne. Mais là, j'étais plutôt intéressé par la géographie à l'époque, jusqu'à ce que ma prof de philosophie me dise que ça pensait en moi, comme elle aimait le dire à l'époque, et qui m'a orienté donc sur la philosophie, juste parce que, effectivement, ça répondait aussi à des interrogations personnelles, c'était plutôt quelque chose qui, disons, répondait à des questions en même temps que m'apprenait des choses. Donc c'était vraiment, on peut dire, au moment de la cagne que je me suis vraiment décidé à faire de la philosophie au sens strict.
Et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en faire votre métier ?
D'abord parce que je voulais être prof depuis très longtemps, même si j'ai eu d'autres centres d'intérêt. Et parce que, disons que ça me permettait en quelque sorte d'avoir un métier qui m'apparaissait comme une activité de distraction. C'est-à-dire quand on a beaucoup fait de mathématiques et de choses comme ça, et que la lecture était plutôt un plaisir, quand on peut se rendre compte que le métier peut être tiré de ce qui faisait plaisir, on décide d'en faire son métier, ce qui permet de travailler sans avoir l'impression de toujours travailler.
Et à propos de lecture, quel est le premier livre qui vous est marqué ?
En philosophie ?
En philosophie, ou oui, en philosophie on va dire.
Bah, avant la philosophie, il y en a pas mal, mais... En philosophie stricte, ça a été la généalogie de la morale, qui était le premier livre de vraiment philosophie que j'ai lu au tout début de la terminale, et qui a été une espèce de révélation. Voilà.
Est-ce qu'il y a une rencontre avec un philosophe qui vous a particulièrement marqué ?
Alors, un philosophe, il y a beaucoup de gens, est-ce qu'on peut les appeler des philosophes, qui sont des professeurs de philosophie qui m'ont marqué effectivement, qui sont encore ici d'ailleurs, des gens comme Pierre-François Moreau par exemple, qui m'a beaucoup marqué. Au sens des philosophes, c'est-à-dire qu'on peut étiqueter autrement que comme professeur de philosophie ou chercheur, je crois Paul Ricoeur, effectivement, qui était venu faire une conférence et qui avait un petit peu discuté autour de l'herméneutique biblique à l'époque où j'étais élève à l'école, à Fontenay, et qui était extrêmement alerte malgré son âge déjà relativement avancé à l'époque, et qui en plus a un mode de pensée qui, j'avoue, m'intéresse toujours beaucoup aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous pensez avoir gardé de ces deux philosophes ?
Oh, beaucoup de choses, de Pierre-François Moreau à peu près tout, enfin tout, je ne veux pas non plus qu'il me saute dessus, hein. Mais disons une méthode d'approche des textes, c'est-à-dire de les inscrire véritablement à la fois dans une perspective qui est véritablement historique, c'est-à-dire ne pas se perdre dans des considérations purement métaphysiques, un petit peu gratuites, et en même temps voir la philosophie aussi comme une activité pratique qui parle de choses qui sont d'actualité contemporaine, qui ont véritablement une utilité et une pertinence pour l'existence même, et pas seulement une simple réflexion un peu dématérialisée. Et de Ricoeur, l'herméneutique. C'est-à-dire, disons que ça, puisque c'était un vivant, mais ma rencontre véritable aurait plutôt été, mais il était mort, Michel Foucault. Justement, avec l'analyse des discours, c'est ça qui m'intéresse vraiment le plus en philosophie, c'est voir ça comme une structure discursive, plus que comme une idéologie ou une...
Et du coup, comment est-ce que vous la définissez, la philosophie ?
Alors, la définir, bon, évidemment, c'est toujours la question un peu difficile. J'irai pas jusqu'à aux extrêmes deleuzienne de boîte à outils, mais je pense que c'est plutôt une pratique de soi, intellectuelle, dirons-nous. Voilà, c'est vraiment comme ça que je la pense, plutôt comme un mode de vie, plus qu'une spécialité qui serait différente de ce que l'on est. C'est-à-dire que je pense que finalement on est professeur de philosophie ou philosophe un petit peu comme on est homme. C'est-à-dire que c'est notre personnalité qui fait nos centres d'intérêt et c'est vraiment quelque chose qui est indissociable de ma manière de vivre. Alors non pas que je prétende être un sage, évidemment, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais voilà, c'est un mode de s'interroger sur soi qui est mon mode de vie finalement et mon mode de philosopher.
Et alors comment vous faites pour relier la philosophie médiévale, qui est votre spécialité, avec justement votre vie, puisqu'on pourrait penser que la philosophie médiévale est quand même très spéculative, très théorique, et qu'elle n'est peut-être pas la philosophie la plus apte à donner envie de vivre autrement?
Alors, d'abord, ça dépend ce que l'on entend par philosophie médiévale, parce que effectivement, on a tendance en France à réduire parfois, enfin réduire, si on veut, disons, à choisir dans la philosophie médiévale ce qui relève essentiellement des textes de logique, des textes, disons, ultra-techniques, des textes sur l'intellect, que j'ai beaucoup travaillé aussi, mais qui ne sont pas le tout de la philosophie médiévale. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur Dante, donc c'était déjà une approche de la philosophie médiévale très différente, puisque c'était rentré justement par la poésie, la littérature, donc un mode d'expression de la philosophie dans un langage littéraire. C'était ça qui m'intéressait dans la période médiévale et qui donnait la possibilité justement à une certaine philosophie de s'exprimer. Je pense aux troubadours par exemple, à Dante, ou par la suite à la Renaissance, je m'intéresse beaucoup à des gens comme Montaigne, c'est-à-dire toujours une pratique de l'écriture de la philosophie, mais un petit peu extérieure à ce que l'on entend par la philosophie, disons, scolastique pour le dire en un terme qui ne veut pas dire grand-chose. Mais très technique, etc. Qui est bien sûr extrêmement importante, qui fait partie du processus et qu'on doit connaître pour réussir à véritablement appréhender la dimension littéraire de son expressivité possible, mais qui, à mon avis, est absolument, pour moi, la partie la plus intéressante de la philosophie. C'est-à-dire sa capacité à être un discours, et un discours qui n'est pas seulement un discours technique, mais qui est un discours relevant aussi du champ de la littérature.
Le seul reproche au demeurant qu'aient pu mériter mes parents, c'est d'avoir pas joué plus tôt le jeu de la bête à deux dos. Je suis né, même pas bâtard, avec 5 siècles de retard. Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux. À que n'ai-je vécu, bon sang, entre 1400 et 1500? J'aurais retrouvé mes copains autour de la pomme de pin.
Est-ce que la philosophie a un rôle, selon vous, dans la société?
Alors oui, mais là encore, c'est une question assez difficile dans la mesure où on a tendance à croire, si on imagine par exemple, je sais pas, l'intellectuel sartrien, que la philosophie serait un espèce de flambeau qu'on devrait porter au devant des masses, etc. Mais je reste très foucaldien là-dedans, dans cette interprétation. Donc penser que Sartre est vraiment un homme du 19e siècle, on peut plus faire de la philosophie comme ça, et que, comme disait Foucault, c'est les masses qui savent. Et donc à partir de ce moment-là, c'est plutôt un accompagnement, c'est-à-dire qu'il faudrait plutôt diffuser la philosophie, c'est-à-dire que la philosophie n'est pas quelque chose qui doit se cantonner en quelque sorte dans des cercles intellectuels, mais gagne en profondeur et en intérêt justement à se diffuser dans le plus de champs possible. Et à ce moment-là, je pense que c'est un élément essentiel de l'éducation. C'est-à-dire que si elle devait avoir une influence dans la société, je pense que son influence doit passer absolument par la sphère éducative, c'est-à-dire que la formation philosophique soit une formation de l'individu, avant même d'être une technique de pensée, etc. Enfin, ce qu'elle peut être dans ce que l'on fait à un niveau plus technique par la suite, au niveau de la recherche, mais qui, avant tout cela, peut être utile à tout le monde, comme pratique de pensée, pratique de soi, réflexion sur soi, voilà, qui devrait avoir un champ. Alors peut-être pas sous la forme, effectivement, technique qu'elle peut prendre dans l'enseignement. Il faudra inventer peut-être de nouvelles formes ou permettre à la philosophie de descendre plus facilement, disons, dans des champs moins techniques, sans pour autant se dénaturer complètement, comme c'est hélas souvent le cas lorsqu'elle tente de le faire et qu'elle tombe dans l'espèce d'intellectualisme idéologique que l'on connaît bien en France, évidemment.
Et de quelle manière essayez-vous, vous, en toute modestie, de vivre en cohérence avec la philosophie?
Alors, en toute modestie, tout d'abord, j'essaye de vivre essentiellement en incohérence totale avec moi-même. Donc, de ce fait, je passe mon temps, évidemment, à me forger des beaux idéaux, une belle pratique de vie et savoir exactement ce qu'il faut faire. Et je m'empresse de ne pas le faire et d'aller en permanence à l'encontre de tout ce qui, finalement, serait une véritable vie philosophique. Mais justement, disons que s'il y a une dimension philosophique dans cela, c'est être capable justement de voir que nous ne sommes qu'un nœud de contradictions et que ce sont ces contradictions qui font cette espèce de chose bizarre que je pourrais appeler le moi et qui ne ressemble à peu près à rien et que je serais bien incapable de définir, évidemment. Mais ça reste justement un mode d'interrogation philosophique, c'est-à-dire se forger en permanence un idéal de pratique de vie, etc. et se rendre compte qu'on passe son temps à se trahir soi-même. C'est ça, finalement.
C'est-à-dire que si vous viviez en philosophe, vous auriez plus besoin de philosophie, en fait.
Peut-être, à ce moment-là, je serais un ange, et puis tout serait réglé.
En parlant d'ange, l'époque de la philosophie médiévale, bien qu'elle prenne plusieurs formes bien distinctes, semble trouver une question commune, un principe commun autour de la question du rapport entre la religion et ce qui n'est pas elle. En philosophie politique, l'Église et l'État, en métaphysique, la foi et la raison. Est-ce que cette question fondamentale a encore une validité aujourd'hui en philosophie ?
Alors, oui, non pas plus que jamais, mais finalement, comme toujours, parce que je me rends compte que finalement, les postulats interprétatifs, axiologiques, les différentes idéologies qui sont à l'œuvre dans nos sociétés sont des idéologies qui très souvent, et aujourd'hui peut-être... qui se redoublent à ce niveau-là, sont des idéologies orientées par des sentiments qui sont des sentiments religieux. Alors je ne vais pas parler de religion ici, je voudrais juste mettre un petit bémol, uniquement comme religion, au sens où on pourrait entendre le christianisme, l'islam, etc., comme des religions. Mais je pense par exemple à cette religion assez particulière qu'on peut appeler la laïcité, où l'on voit des intégristes de la laïcité qui apparaissent, c'est-à-dire une espèce de construction idéologique où la croyance individuelle, le jugement personnel subjectif tend à essayer de devenir un espèce de jugement universel et nous permettrait de juger les autres individus à l'aune de nos propres croyances, de nos propres certitudes, etc. Ce qui, à mon avis, me paraît être une attitude anti-philosophique, mais qui a toujours existé, c'est-à-dire, en un mot, le dogmatisme. Qui est la structure même de toutes les idéologies, qui continue à fonctionner. Alors, la religion a été un petit peu, en quelque sorte, l'élément dans lequel a pu se manifester ce dogmatisme, et se manifeste encore aujourd'hui, mais il y a d'autres formes dans lesquelles elle se manifeste. Il se trouve qu'au Moyen-Âge, effectivement, l'attitude religieuse favorisait, disons, une expression particulière de ce dogmatisme, notamment en ce qui concerne par exemple la religion chrétienne, à cause de structures qui étaient des structures politiques. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que cette religion, ce qu'on va appeler religion, c'est plus quelque chose qui est un lien entre les individus et qui va constituer une sphère politique. Donc le christianisme, par exemple, comme structure politique, est quelque chose qui, effectivement, a conduit à ce dogmatisme, mais parce qu'avant tout, il était politique.
Vous êtes spécialiste de théorie de la bande dessinée, comme on l'a dit, vous êtes même dessinateur, vous publiez des articles dans une revue d'art qui s'appelle État d'art, et vous animez même des ateliers de philosophie pour des personnes en souffrance psychique. Comment définiriez-vous le rapport entre la philosophie et ses activités ?
Oui, ce n'est pas que de l'incohérence complète, non, au contraire, ça fait exactement partie de, disons... mon attitude philosophique est peut-être un petit peu particulière dans la mesure où c'est vrai qu'appeler cela de la philosophie, étant donné la définition entre guillemets qu'on pourrait donner à la philosophie qui est très technique, qui passe par toute une série de reconnaissances institutionnelles, universitaires, de type d'examen, qui est assez codifié, serait effectivement peut-être un peu exagéré, mais c'est une pratique de soi, on pourrait dire, c'est-à-dire que, alors je m'explique, là bon, ça peut paraître assez étrange, mais la bande dessinée par exemple, je me suis intégralement construit sur la bande dessinée, c'est-à-dire que j'ai appris à lire dans les bandes dessinées avant d'apprendre à lire dans les romans, j'ai vraiment fait ma culture à l'intérieur d'une représentation qui est une représentation dessinée. C'est-à-dire que pour moi, l'imagination est la fonction philosophique qui me paraît la plus importante. Ce qui fait que je suis peut-être moins rationaliste à tout craint, et que je suis plus porté vers justement le côté fictif de la philosophie, que j'assume. Je pense effectivement que nous produisons des beaux discours, de belles fictions, et que finalement, pour moi, la vérité n'étant pas quelque chose d'accessible, c'est vers ça que doit se tourner la philosophie. Donc la bande dessinée, naturellement, eh bien, permet à la fois d'assumer le caractère fictionnel, mais en même temps de structurer quelque chose qui relève d'un véritable discours, dans la mesure où, par sa séquentialité, par l'organisation justement d'images dans une trame narrative, permet d'associer en quelque sorte la dimension imaginative et la dimension entre guillemets récitative. Et donc de ce fait, il peut y avoir un discours en bande dessinée qui permet d'associer cette fois-ci l'image et la pensée. Donc à ce niveau-là, je pense qu'elle peut être un champ d'application, sinon une philosophie, puisque ça ne voudrait pas dire grand-chose, mais un champ d'application de la philosophie et un champ, en quelque sorte, par lequel peut se véhiculer une formation philosophique, à mon avis, très intéressante. Ce qui se produit d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, il y a énormément de scénaristes de bande dessinée qui ont eu une formation de philosophe. Je pense à Sfar, par exemple, Johann Sfar, qui a fait de la philosophie afin de faire des scénarios de bande dessinée, ou des gens comme Peters, qui scénarise les Cités Obscures, entre autres, et qui sort ces temps-ci, où il est déjà sorti, une biographie de Derrida, par exemple, qui a fait sa thèse avec Roland Barthes sur les bijoux de la Castafiore. Enfin bon, toute une série de problématiques qui sont à la fois très techniques. Bon, c'est des gens qui ont véritablement une connaissance très technique de problématiques linguistiques, etc., mais qui en même temps font passer ça dans un schéma de bande dessinée qui, du coup, est accessible à plusieurs niveaux. Il y a une trame narrative qui permet une lecture, on pourrait dire, par un très large public, mais en même temps il y a plusieurs épaisseurs qui permettent d'accéder cette fois-ci à un niveau de discours beaucoup plus profond. Et la bande dessinée permet cela, comme la littérature, hein. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que la bande dessinée est l'outil par excellence, mais du coup ça permet d'être philosophe tout en acceptant cette dimension-là de la bande dessinée.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
clip, crack,
des
bang,
des
blanc,
et des
zip, shabam, pow, blanc, wheel.
Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait
flam,
ça fait
splash,
et ça fait
ch'top,
ou bien
bang,
ou parfois même un
zip, shabam, pow, blanc, wheel.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
bam, pa, blanc, wheel.
Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait
wheel.
Quand on s'envole et puis
cling.
Après quoi je fais
tilt.
Et ça fait
boing, shabam, pa, blanc, wheel.
Et quant à l'autre aspect dont vous parliez, qui était le travail avec des personnes en souffrance psychique, pour le dire comme ça, là aussi ça fait partie d'une interrogation sur le moi, c'est-à-dire que, n'ayant jamais considéré que j'étais normal, je pensais qu'il était quand même intéressant de me confronter avec des gens qui eux-mêmes étaient affectés du même problème, c'est-à-dire quel était le statut de cette normalité et comment un groupe de gens qui sont tous des individualités, puisque bon, les gens avec qui je travaille sont tous des schizophrènes, et la schizophrénie n'est pas vraiment une catégorie, c'est un comportement strictement individualisé, c'est très difficile justement de la définir, dans la mesure où elle va avoir des déterminations purement individuelles dans chaque cas. Et donc de ce fait, c'est à chaque fois de pures individualités. Et comment le but, par exemple la revue État d'Art qu'on avait monté, le but était de voir comment on pouvait organiser à partir d'un collectif d'individualités une production collective, mais qui viendrait de ce collectif elle-même, sans pour autant qu'il y ait un quelconque directeur, une quelconque personne qui organiserait cela de l'extérieur. Il y avait des gens qui apportaient des compétences techniques, mais ensuite, c'était justement le collectif qui véritablement cherchait à produire quelque chose. Donc c'était une expérience véritablement, on pourrait dire, sociale et politique, et en même temps humaine, et je pense que travailler sur l'humanisme, par exemple, de la Renaissance, du Moyen-Âge, ou même contemporain, n'a que peu de sens pour moi si ça ne s'accompagne pas en quelque sorte d'une pratique en quelque sorte humaniste, c'est-à-dire voir ce que c'est concrètement que de faire des choses relevant de l'humanisme, non de dire que, évidemment, c'est, je sais pas, quelque chose qui va être exceptionnel, etc., mais juste tout simplement considérer que être humain, c'est aussi ça, c'est-à-dire véhiculer l'enseignement et la discussion dans des endroits où cette discussion, finalement, n'avait pas de prise, pas de place, et permettre justement à ce qu'une parole naisse de la part d'individus qui, justement, sont parlés de l'extérieur par des regards de diagnostic et qui ne sont plus capables, ou du moins à qui on n'autorise plus la prise de parole.
Et quelle est selon vous l'entreprise philosophique la plus inutile ou nuisible aujourd'hui ?
Ah, il y en a tellement.
Par exemple, Deleuze disait des philosophes analytiques que s'il l'emportait, ce serait fini de la philosophie. Avez-vous vous aussi un ennemi philosophique ?
Oh, j'ai pas d'ennemis philosophiques. Oh, vous savez, moi j'aime bien tout le monde. Finalement, ils sont tous humains. Je me dis qu'ils ont tous leurs problèmes et que chacun gère ses névroses comme il peut. Bon, la philosophie analytique, j'ai rien contre la philosophie analytique spécialement. Des fois, je m'emporte. Hein, ceux qui suivent mes cours savent que j'ai parfois tendance à m'énerver contre Heidegger, etc. Pourtant, je l'ai beaucoup lu aussi. Donc, la philosophie analytique a plein de centres d'intérêt. Ce qui me gêne, c'est toujours la même chose. C'est le dogmatisme, c'est-à-dire l'idée, par exemple, ce qui me gêne dans, non pas la philosophie analytique, parce que elle est tellement diverse que j'aurais du mal à la catégoriser d'un seul tenant, mais c'est ceux qui vont considérer, par exemple, qu'il faut, il ne faut plus lire, par exemple, l'histoire de la philosophie, que la philosophie analytique doit être purement contemporaine, sans s'intéresser à l'histoire de la philosophie. Faire de la philosophie sans la réarticuler sous son histoire, c'est réinventer un petit peu le fil à couper le beurre tous les matins, parce que on redit des choses qui ont déjà été dites autrefois, en des fois plus mal. Souvent, ça m'est arrivé d'entendre des gens développer des raisonnements kantiens, étant persuadés qu'ils développaient une nouvelle morale, mais juste, ils n'avaient pas lu Kant. Donc, évidemment, essentiellement à l'étranger, hein, puisqu'en France, on a quand même cette espèce de formation obligatoire à l'histoire de la philosophie qui fait que, de toute manière, on est obligé de connaître cette histoire. Mais c'est vrai que le risque, ce serait ça. Ce serait de se couper complètement, de croire qu'on peut se couper de notre histoire de pensée et qu'un concept n'a pas d'histoire. Ça, c'est le principal danger. Donc, c'est pas un ennemi. Mais c'est l'idée que je peux prendre un mot et croire que ce mot peut être utilisé, on pourrait dire, en un sens courant, neutre, sans voir qu'il est chargé de toute une série de déterminations, d'idéologies, de modes d'interprétation qui sont une histoire des siècles et que nécessairement je vais agiter lorsque je l'emploie.
Et pour finir, un conseil aux jeunes philosophes, quelle est selon vous la tâche la plus urgente de la philosophie aujourd'hui ?
Alors ça, encore une question, la tâche la plus urgente, je sais pas s'il y a d'urgence pour la philosophie, vous savez, la philosophie c'est très long, voilà, c'est vraiment très long, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, même perd à essayer justement de s'inscrire dans une actualité immédiate. On le voit, tous les philosophes qui se sont perdus dans l'actualité, on fait du journalisme, non pas que je critique. Mais on sort justement de ce qui devrait être la philosophie, c'est-à-dire cette capacité de distanciation, cette espèce de moment de digestion extrêmement lent, qui fait que l'urgence n'est jamais bonne en philosophie. Alors du coup, je ne pense pas qu'il y ait d'urgence. Il y a des problèmes qui sont des problèmes urgents. Je ne pense pas que c'est la philosophie de les régler. Je pense qu'il y a d'autres sciences qui peuvent s'en occuper, des sciences politiques, etc. Pour ce qui est de l'urgence, pour le reste, il faudrait penser à un nouveau modèle de société, mais... ce serait urgent, mais comme ça prendra plusieurs siècles, c'est une urgence assez relative, dirons-nous, pour réussir vraiment à structurer une telle question.
Merci beaucoup Didier Tiavani, c'était Pourquoi pas des philosophes.
Merci.